Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Sainte Thérèse et les escaliers, c'est l'approche originale proposée par l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Des marches et des paliers que la petite Thérèse emprunte dans son quotidien. Des escaliers qui permettent de recueillir 12 leçons de sa vie spirituelle et un exemple pour ceux qui veulent la suivre. Bonjour Claire Leridan.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes et vous êtes donc l'auteur de ce livre « Sainte Thérèse et les escaliers, 12 leçons de vie spirituelle ». Vous êtes docteur en théologie morale et spirituelle et enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Toulouse. Merci d'être là aujourd'hui et de partager ainsi le fruit de votre travail et de votre prière.
Eh bien, avec grande joie, parce que c'est toujours une joie de pouvoir se faire un petit peu l'écho de ce que Thérèse de l'Enfant Jésus nous a livré. Et qui est tellement précieux et qui est tellement actuel.
Oui, j'aimerais au début de cette émission vous demander tout simplement ce qui vous a permis de faire le lien entre les escaliers empruntés par la petite Thérèse et sa vie spirituelle. D'autant plus qu'on se souvient davantage des propos de la sainte sur l'ascenseur qui représente les bras de Jésus pour monter au ciel. Mais finalement, ces escaliers.
Ben, l'ascenseur dont vous parlez n'existe pas sans, on va dire, la problématique de l'escalier à ce moment-là. C'est-à-dire que Thérèse parle du rude escalier de la perfection. Et du fait que souvent on ne peut même pas monter la première marche. Déjà la première marche, l'unique première marche déjà, est trop haute pour nous.
Et qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste de travailler les escaliers de la vie de Thérèse ?
Alors ça, je vais dire, ça s'est fait de deux manières. Ça s'est fait un petit peu d'abord spontanément parce que à un moment... je me sentais en manque de nourriture spirituelle. Je me suis dit, je vais me replonger dans Thérèse. Et pour me replonger dans Thérèse, je suis allée voir tel ou tel escalier, parce qu'il y en a deux, trois dont on est familier, qui nous parlent d'avance. Et voilà, au début, je me suis contentée de ça. L'année suivante, à un moment, comme ça m'avait bien réussi de consigner ces notes-là pour moi-même, j'ai refait la même chose. J'ai repris un temps avec Thérèse et j'ai continué à explorer un peu. Donc à ce stade-là, je n'avais que 4 ou 5 escaliers et je n'avais pas du tout prévu de publier quoi que ce soit. C'était vraiment pour une nourriture dont j'avais besoin moi d'abord. Jusqu'à ce que plus tard, donc, l'éditeur de CLD vienne me chercher sans que je l'ai prévu, sans que je le connaisse, sans que, voilà, en me demandant « est-ce que vous auriez quelque chose à proposer ? Voilà ce qu'on cherche à rejoindre comme public, voilà ce qu'on aimerait avoir. » Et à ce moment-là, j'ai repensé à ce qui dormait dans l'ordinateur depuis plusieurs années et dont j'avais rien fait. Et c'est là qu'après, j'ai fait une recherche plus systématique qui m'a amené à identifier 12 escaliers. J'ai failli m'arrêter à 10. Finalement, j'ai intégré les deux derniers que j'avais vus passer. Et parce qu'en fait, en regardant ça, à chaque fois, c'est prodigieux, il y a l'occasion d'un grand enseignement, d'une leçon bénéfique. Et avec tous les avantages de Thérèse, c'est-à-dire, c'est concret, c'est du vécu, ça nous parle, c'est visuel, on peut le mémoriser facilement parce que ça n'est pas simplement ah ben on sait que les principes de la vie spirituelle c'est ceci, c'est cela, d'ailleurs il est important de veiller à... Non, c'est des leçons en images, c'est des leçons qui s'impriment toutes seules.
Avec un langage simple aussi.
Hein. Avec un langage simple comme elle sait faire. Et en même temps, ce langage simple ne doit pas masquer le fait qu'il y a une profondeur incroyable et une justesse théologique impressionnante.
La notion d'ascension, et vous le dites dans l'introduction de votre ouvrage, elle est souvent utilisée dans la Bible. On parle du Dieu très haut, la tradition appelle à monter au ciel. Saint Jean de la Croix utilise l'expression « la montée du Carmel » et Thérèse, justement, exprime son désir, d'aller au sommet de la montagne de l'amour. Qu'est-ce que ces expressions ont en commun, Claire Leridan ?
Ben, on trouve ça à la fois dans la foi chrétienne, mais on trouve ça aussi dans d'autres traditions, c'est-à-dire qu'on a une conscience que le divin, par rapport à nous, il est disproportionné, et donc on le situe généralement dans les hauteurs, il est élevé. on ne situe pas le divin dans les abîmes, on situe le divin dans ce qui est haut, et on situe le divin comme faisant l'objet d'une quête ascensionnelle, quelque part. Donc ça, c'est déjà un peu sous toutes les latitudes et à toutes les époques. Et dans la tradition chrétienne, ben oui, notre Père qui est aux cieux, enfin... On parle des cieux pour situer Dieu. En même temps, il est à l'intime de notre cœur, mais quand même. Et il y a l'idée que pour le rejoindre, il faut s'élever.
Ouais. Et paradoxalement, il faut s'élever, hein, cette ascension pour se laisser attirer par Dieu au séjour de sa gloire, dit Sainte Thérèse de Lisieux. Mais ça implique quand même de descendre et de s'abaisser.
Alors, c'est là aussi qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'une élévation qui est à vivre. Mais cette élévation, pour se vivre, elle aura besoin qu'on accepte de descendre. C'est très paradoxal. Et là, on va avoir du génie de Sainte Thérèse en concentré. Hein. Aussi paradoxal que ça soit, c'est réel. Et donc, par moment, on se désole de ne pas arriver à monter, alors que la pédagogie de Dieu, c'était que là, on apprenne à descendre et c'est comme ça qu'on monte. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, mais de fait... du coup, il y a cet apprivoisement de ce que Thérèse va appeler la petitesse ou le néant ou la pauvreté, quand c'est pas la misère. Bon, et au lieu de vivre tout ça comme ce qui me séparerait le plus de Dieu, finalement, Thérèse va permettre que ça soit ressaisi pour devenir ce qui me propulse davantage en Dieu. Et donc ça permet de réaccueillir ce qui en nous spontanément n'est pas accordé à la sainteté, à l'élévation de Dieu, finalement pour permettre à Dieu, par son alchimie à lui, d'en faire de la sainteté, d'en faire de la configuration à lui.
Oui. Mystère prodigieux quand même. Hein.
Incroyable, on n'a jamais fini de le sonder.
C'est ça. Vous avez dénombré, Claire Luridan, 12 escaliers qui émaillent les étapes de la vie spirituelle de Sainte Thérèse. Quel chemin lui font-ils parcourir et aussi quel chemin, nous, ça peut nous permettre de parcourir?
Alors, en parlant de 12 escaliers, je voudrais dissiper une erreur d'interprétation possible. Il ne s'agit pas de se dire, je prends un premier escalier qui m'amène à un deuxième, qui m'amène à un troisième... On n'est pas dans une successivité, d'accord ? Et c'est plutôt synchronique, c'est-à-dire que ça touche des domaines différents. Cette image de l'escalier va être valable dans plusieurs domaines. Donc, on n'a pas une synthèse de la petite voie avec l'intégralité de ces 12 escaliers, mais on a différents domaines où la spiritualité de Thérèse s'illustre très bien. Et... il y a l'escalier de ceci, il y a l'escalier de cela. C'est des domaines dans lesquels nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de progresser. Et c'est un peu cette synergie aussi qui fait que le parcours à la suite du Christ s'accomplit.
Mmh. Oui. Alors, évidemment, avec la durée de cette émission, on ne va pas pouvoir parcourir ces 12 escaliers. Donc, nous en avons choisi 3. On va commencer par l'escalier du soutien indispensable. Hein. C'est le premier de la vie de Sainte Thérèse. Et c'est, vous allez nous le dire, hein, une petite fille qui est très dépendante de sa maman.
Oui, bah, Thérèse, elle a eu un début de vie compliqué et elle a même failli ne pas survivre. Oui. Ça s'est joué.
Comme beaucoup de ses frères et sœurs, d'ailleurs.
Elle avait perdu, la maman de Thérèse avait perdu 4 enfants en bas âge. Et donc, les inquiétudes pour Thérèse elle-même, c'était des inquiétudes fondées. Ce n'était pas simplement un tempérament anxieux qui aurait fait croire que. Donc, ça a failli très mal se passer pour Thérèse. Et Thérèse, effectivement, apparaît d'abord assez dépendante, effectivement, surtout par rapport à sa maman. Et justement, on trouve un premier escalier dans la vie de Thérèse, où elle est toute petite. Et c'est impressionnant ce qu'elle vit avec cet escalier, parce que déjà là, on a un enseignement pour la vie spirituelle qui est déterminant et qui nous rejoint bien là où on se sent en difficulté, là où on se sent confronté à l'impuissance.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène ?
Alors, la scène, elle est consignée à plusieurs endroits, et c'est très intéressant. Thérèse veut rejoindre sa maman, qui est en haut, et donc il y a un escalier à monter. Et Thérèse, à chaque marche, va s'arrêter en appelant « maman ». Hein, et Zélie va dire « autant de marches, autant de maman ». Autant de marches, autant de maman. Ça veut dire il n'y a pas une marche où elle n'appelle pas.
Oui.
À chaque marche, elle a besoin d'appeler et elle a besoin d'entendre une réponse parce que Zélie, la maman de Thérèse, nous dit que si elle ne répond pas, Thérèse reste là sans avancer ni reculer, comme paralysée. Quoi. Alors, c'est très intéressant parce que on voit Thérèse qui veut monter. Au passage, j'admire la maman de Thérèse.
Oui, quelle patience. Hein.
Qui ne vient pas la chercher.
Oui.
Qui ne la dispense pas.
Qui ne la porte pas.
Non de plus. Monter elle-même. De faire cet effort. Même pour avoir, entre guillemets, la paix. Hein, Zélie était très occupée. Elle avait énormément de travail. Donc, Thérèse veut monter. Et elle va recevoir à chaque marche un encouragement. Mais cet encouragement ne supprime pas l'effort qu'elle a à fournir. Ça, c'est très important aussi. La maman de Thérèse est bien là, la maman de Thérèse répond, mais la maman de Thérèse laisse Thérèse faire ce qu'elle a à faire. Elle ne fait pas à sa place.
Et qu'est-ce que ça nous dit, justement, sur notre propre cheminement spirituel ?
Ben, on a pratiquement une allégorie dans cet escalier-là, parce que, justement, on ne peut pas avancer sans le secours de Dieu. On a besoin de ce secours, et il est juste qu'on l'appelle. Par contre, il ne serait pas juste qu'on attende que Dieu nous secoure d'une manière qui nous dispenserait d'un effort à fournir, qui nous dispenserait de ce dont nous sommes malgré tout capables. Tout en laissant très impuissants, nous sommes malgré tout capables de petites choses, de petites marches. Et c'est un escalier de relation. Elle est en relation avec sa maman à travers cet escalier. Mmh. Et elle va réellement monter. Mais d'une part... c'est pas parce que elle a besoin de ces encouragements qu'elle va dire je fais plus rien, je m'assois en bas et puis j'attends qu'on vienne me chercher, j'attends qu'on vienne me nourrir, j'attends qu'on vienne me donner ce dont j'ai besoin. Donc y a déjà cette grande leçon qui était aussi la leçon de Sainte Thérèse d'Avila, d'avoir de grands désirs.
Oui.
Et de pas renoncer à ces grands désirs. Si devant l'incapacité que je ressens je m'autorise à ne plus désirer, c'est une perte effroyable. Souvent, on ressent cette incapacité comme venant désavouer nos désirs. Et donc, on a envie de renoncer aux désirs. On voudrait soit escamoter l'incapacité, qui pour une part va rester, soit escamoter les désirs. C'est très important de garder de grands désirs, de nourrir de grands désirs, de cultiver de grands désirs, même si on ne voit pas comment on va en venir à l'effet. Mais Dieu est Dieu. Il ne nous est pas demandé d'être Dieu. Il nous est demandé d'avancer avec Dieu. Mais Dieu ne va pas nous dispenser de ce que nous avons à investir. Et ça, c'est très important aussi, parce que on a vite fait de glisser, on a vite fait même de se méprendre sur l'enseignement de Thérèse.
Et sur l'image qu'on peut avoir de la sainteté. Aussi.
Et sur l'image qu'on peut avoir de la sainteté. Donc, je ne vais pas tout faire à la force du poignet. Il ne suffit pas de vouloir, mais je ne vais pas non plus dire « Ah, de toute façon, moi je suis pauvre, moi je suis faible, moi je ne peux pas, Dieu le sait, donc c'est à lui de faire et je m'assieds ou je démissionne. Ben, » la grâce fait la place à ce que j'ai à investir. C'est pour ça que cet escalier, il est remarquable de justesse théologique sur l'équilibre entre nature et grâce. Ce que, dans ma liberté, j'ai à investir si je le veux, si je le choisis, si je le décide, et ce que Dieu fera pour moi et qui dépasse tout, mais que Dieu ne fera pas sans moi. On pourrait revenir à cette grande leçon de Saint Augustin aussi. Saint Augustin disait « Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi, ne te sauvera pas sans toi. » Eh bien oui, il ne m'a pas demandé pour me lancer dans l'existence, il a pris la décision pour moi. Et
il a fait quand même, voilà, il a fait à chacun le don de la vie.
Il a fait le don de la vie, et des fois on peut avoir du mal à accepter ce don, et on pourrait se dire que je n'avais pas forcément envie de vivre, il ne m'a pas demandé. Bon, à la décharge de Dieu, on peut dire qu'il ne pouvait pas me demander tant que je n'existais pas, donc c'était déjà logique.
Ouais.
C'était déjà logique qu'il décide pour moi, et surtout qu'il sait comment cette vie peut être extraordinaire. Comment elle peut être extraordinaire. C'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être, je n'aperçois pas qu'elle peut être extraordinaire. C'est pas parce que je ne l'aperçois pas qu'elle ne peut pas l'être. Elle a vocation à l'être. Et Dieu fera tout pour qu'elle le soit. Est-ce que je lui permets de faire tout pour qu'elle le soit ? Bon. Mais Celui qui m'a créé sans moi, sans me demander. Il ne me sauvera pas sans que moi je le veuille, sans que moi j'accueille son salut, sans que moi je permette à ce salut de fructifier dans ma vie et de transfigurer ma vie. Ouais. Et on a cette sagesse qui est déjà condensée dans ce premier escalier avec Thérèse. Parce qu'elle veut monter, elle ne renonce pas à monter.
Donc elle a ce désir.
Elle a ce désir, elle entretient ce désir. Elle appelle le secours dont elle a besoin. Elle reçoit un encouragement qui lui laisse quand même sa responsabilité, son effort. Elle fait l'effort. Et à l'étape suivante, elle appelle encore. Et à l'étape suivante, elle reçoit encore l'encouragement dont elle a besoin. Et voilà, elle fait cette ascension tout en partant d'un certain handicap.
Oui, c'est ça.
Et c'est tellement à l'image de ce que nous sommes, de ce que nous avons à vivre au quotidien, dans toute situation.
Elle avait quel âge, Thérèse, quand elle a parcouru cet escalier?
Il me semble que c'était 2 ans et demi, quelque chose comme ça.
Oui. Et elle arrive à tirer un enseignement de cette expérience voilà, où elle a gravi marche après marche.
Je ne sais pas dans quelle mesure elle le tire. Je pense que cette expérience l'a marquée existentiellement. Ce n'est pas pour rien. Il y a une densité d'enseignement, de justesse là-dedans qui est vraiment impressionnante. Et elle en reparle des années après. Ça veut dire qu'elle n'a pas oublié. Et dans la mesure où c'est aussi une métaphore de notre chemin avec Dieu, je comprends qu'elle n'ait pas oublié. Et plus nous allons garder ça, et plus nous pouvons retrouver une attitude juste, si par moment nous sommes prêts de laisser tomber, ou prêts d'attendre que Dieu fasse ce que nous avons, nous, à investir, ou bien si nous sommes tentés de faire d'une manière où le secours divin n'entrerait plus en ligne de compte.
Donc ça veut dire qu'il faut être attentif à ses talents et aux dons que Dieu nous a donnés pour pouvoir être ajusté à son dessein.
Aussi. Alors on ne fera pas forcément fructifier tous les talents qu'il nous a donnés, parce que dans la vie, on fait aussi des choix qui font que certains vont être privilégiés, d'autres ne seront pas déployés de la même manière. Mais effectivement, nous avons reçu des talents. Ils ne sont pas seulement pour notre joie immédiate, ils sont aussi appelé à fructifier pour le bonheur de beaucoup et je dirais même pour le royaume, pas seulement à l'horizon de cette vie dans l'immédiat, mais il y a un retentissement de par la communion des saints, il y a un retentissement dans l'invisible et c'est dommage de laisser perdre ça, pas seulement parce que tiens, j'aurais pu me réaliser dans telle dynamique.
Oui, c'est pas seulement pour soi.
Et non, et non, c'est pour l'Église, c'est pour le monde et c'est pour le salut du monde.
Oui.
Chaque fois que je corresponds à ce que Dieu me propose de vivre, il y a une fécondité qui dépasse tout.
Ça fait penser à cette phrase, toute âme qui s'élève, élève le monde.
Exactement. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Et par moments, je ne vois pas que je m'élève, entre guillemets, mais par le fait que je suis en Dieu, par le fait que je ne renonce pas à ces désirs, même si je ne vois pas comment je vais réussir à avancer, et bien, je suis accordé à la dynamique qui convient, et il y a des bienfaits qui en découlent pour des âmes que je ne connais même pas.
Oui, ça c'est le mystère de la communion des saints.
Mais c'est fou, nos vies sont riches de tout ça.
Et ça, on le verra au ciel.
On le verra au ciel, mais on peut apprendre par la foi à se rappeler que c'est là, à se rappeler que les événements qui me contrarient, les événements, bien sûr je peux être dans un embouteillage, bien sûr je peux devoir patienter à la caisse du supermarché, mais c'est pas forcément du temps perdu, c'est du temps où ce temps-là je peux le donner à Dieu et qu'il en fasse des grâces qui vont pleuvoir sur je ne sais pas qui. C'est fascinant, Thérèse, c'est 8 ans dans un petit Carmel de province, elle est patronne des missions.
Oui, c'est fou.
Et quand vous allez à Lisieux, c'est fou, la dernière fois que j'y suis allée en octobre l'an dernier pour le colloque durant la semaine thérésienne, j'ai constaté à nouveau à quel point tout le monde va chez Thérèse. Elle parle à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le pays, quel que soit la culture, quel que soit le niveau social, quel que soit. Enfin, c'est impressionnant. Elle rassemble tout le monde et elle aide tout le monde.
Alors, on va voir, après ce premier escalier dans la vie de Thérèse de Lisieux, d'autres escaliers, l'escalier de l'amour de préférence. Je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons Mon chant d'aujourd'hui, interprété par Michael Lonsdal.
Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ? Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire ses louanges, quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui. Alors je chanterai sur la lyre des anges l'éternel aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui.
Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les escaliers. Nous sommes avec Claire Le Ridan de la communauté des Béatitudes, docteur en théologie morale et spirituelle et enseignante chercheuse à l'Institut catholique de Toulouse. 12 escaliers émanent la vie de Sainte Thérèse. Nous en avons sélectionné 3. Vous nous avez parlé de ce premier escalier avant la pause musicale qui est l'escalier...
Du soutien indispensable.
Et maintenant, nous allons regarder cette gravure, peut-être avec vous, cet escalier de l'amour de préférence. C'est, écrivez-vous, un des escaliers qui touche le domaine des relations. Mmh. C'est celui que Thérèse, la petite Thérèse, emprunte au début de sa vie au couvent et qui passe à chaque fois devant le bureau de sa prieure. On pourrait aussi l'appeler l'escalier de retenue. Racontez-nous la scène.
Ah ben je voudrais... Laissez la parole à Thérèse, là, qu'on écoute ce petit extrait, parce que c'est fascinant. Donc, effectivement, c'est un escalier devant lequel elle passait en raison de ses différents emplois. Et elle passait donc devant le bureau de sa prieure, Mère Marie de Gonzague. Et voilà ce qu'elle a écrit dans le manuscrit C qui lui est justement adressé. « L'amour se nourrit de sacrifices. Plus l'âme se refuse de satisfaction naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour me satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligée de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais mille raisons pour contenter ma nature. Que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aimer uniquement. »
Donc finalement, Sainte Thérèse, dans ce qu'elle écrit là, elle explique qu'elle a qu'elle n'a plus besoin de consolation, ou en tout cas qu'elle a pu se détacher de ce besoin d'être sans arrêt confortée et encouragée.
Alors c'est là qu'on pourrait dire qu'il y a presque deux escaliers, c'est-à-dire il y a l'escalier matériel dans lequel elle passe, et alors que bien des idées lui viennent pour dire je frappe chez la prieure, je vais glaner quelques gouttes de consolation, elle choisit de ne pas le faire. Elle se cramponne la rampe pour ça.
C'est important, hein, cette notion de rampe.
Mon Dieu, mais il faut voir la scène. Ouais. Elle est cramponnée à la rampe parce que sinon, la tentation d'aller chercher quelques consolations est trop forte. Hein. Elle se cramponne à la rampe parce qu'elle veut aimer Dieu en premier et elle veut que les autres amours soient ordonnés à cet amour de Dieu. Donc, son désir de donner priorité à Dieu est là, et elle ne va pas s'accorder des petites choses qu'elle serait portée à chercher naturellement.
Et qui pourraient la distraire aussi de, de cet objectif.
Voilà, pour être sûre d'honorer cette préférence à donner à Dieu, elle vit cette fidélité. Donc c'est une ascèse, c'est un effort, c'est la retenue dont vous parliez. Et en même temps, quand elle le relit, elle voit bien que cet effort qu'elle a fait l'a amenée où elle désirait. C'est-à-dire que en très peu de temps, puisqu'elle n'a passé que quelques années au Carmel, Dieu l'a amenée à ce que l'amour d'autres personnes ne risque plus de menacer son amour de Dieu. C'est-à-dire, elle est parvenue au point où il n'y a plus cette concurrence entre ses amours, mais une synergie entre ses amours. Et elle le montrera dans d'autres passages, c'est-à-dire que Dieu progressivement nous amène au point où aimer l'autre nous pousse à aimer Dieu davantage et où aimer Dieu nous pousse à aimer l'autre davantage.
Oui, il n'y a pas d'amour concurrent, en fait.
Au terme. À mesure qu'on progresse. Mais au début, il y a besoin de mettre en ordre nos affections. Il y a besoin de veiller à ce que la priorité à donner à Dieu soit effective, et c'est ça qu'elle fait dans cet escalier en se cramponnant à la rampe. Donc c'est un exercice exigeant au quotidien. Il ne s'agit pas de renoncer à aimer d'autres que Dieu,
mais il s'agit prochain.
Oui, mais les aimer de manière juste, de manière ordonnée, de manière fructueuse, et pas d'une manière qui pourrait finalement pas seulement desservir l'amour de Dieu, mais nous desservir aussi dans notre union à Dieu.
En captant cet amour pour soi-même.
Donc il y a une sagesse qui est là-dedans, et une cohérence de vie. Elle a choisi que Jésus soit son unique amour, pas unique pour exclure les autres, mais pour intégrer les autres de manière juste et fructueuse. Mm-hmm.
Et justement, puisque vous parlez des fruits, c'est intéressant parce que dans ces efforts répétés que fait Thérèse, ce sont les fruits qui en découle. Elle devient plus forte, elle dit qu'elle est moins attachée aux personnes, et elle est plus unie, et elle goûte à une nouvelle liberté. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour notre propre vie spirituelle ?
Alors, tout d'abord une nuance, si vous me permettez. Oui. Je ne dirais pas qu'elle est moins attachée, je dirais qu'elle est attachée de manière plus juste.
Ah oui, c'est
parce
ça, plus ajustée.
Parce que ce qu'elle écrit, elle dit, je l'ai mis aussi dans le même chapitre, « Plus l'âme se refuse de consolation naturelle, plus sa tendresse devient forte et désintéressée. » Mais à la fois forte et désintéressée. C'est-à-dire pas attachée comme une dépendance qui couperait les ailes quelque part, c'était le risque aussi pour elle, mais attachée dans une liberté qui fait que oui, on peut se déployer, non, il n'y a pas d'aliénation, et donc c'est vraiment fructueux et ça fait grandir tout le monde. Donc dans nos vies spirituelles, ben oui, Dieu nous amène aussi, plus on s'unit à Dieu, plus Dieu nous amène à toucher, en fait, quelles sont nos idoles, quelles sont les choses auxquelles nous sommes excessivement attachés, auxquelles nous sommes mal attachés. Et Dieu vient purifier ces attachements. Dieu vient les travailler, et c'est raboteux, ça nous coûte. Alors, il y a en plus, il y a le travail qu'on peut faire nous-mêmes avec notre bonne volonté, nos bonnes intentions. C'est déjà super. Vraiment, c'est super qu'on veille à ça. Mais à l'intérieur de ça, il va y avoir les purifications qui sont à l'initiative de Dieu.
Vous auriez des exemples ?
Oh, mais ça peut toucher quantité de choses, parce que je peux être attachée à des biens matériels, je peux être attachée à des relations, je peux être attachée à une réputation, je peux être attachée à des privilèges, je peux être attachée à des services, des emplois, des fonctions, des métiers, je peux être attachée à des loisirs, je peux être attachée à ceci, à cela.
Tout ce qui me fait exister, finalement.
Bah justement, ça ne me fait pas exister. Mais Dieu seul me fait exister.
Apparemment.
Mais si j'en attends des choses qui ne sont pas justes, et si je ne vais pas chercher auprès de Dieu ce qui est juste, ça se retourne contre moi. Donc, il y a ce que je vais engager moi. Je vais dire, Seigneur, je t'abandonne ceci, je t'offre cela, je vais faire effort pour moins ceci, moins cela. Bon, très bien, c'est chouette. Je suis sûre que Jésus est très touché. Et c'est important. Mais le plus fructueux, ceci restant important, le plus fructueux, ça va être ce que Dieu vient chercher alors que je n'avais pas prévu et que peut-être je n'avais pas du tout envie et que je ne voulais pas qu'il touche à ça. Peut-être j'étais prêt à donner ça, ça, ça et ça du moment qu'il ne vienne pas m'enlever telle chose.
Une autre sphère, oui.
Et
ça, c'est une conversion.
Bah, de toute façon, activement et passivement, il y va d'une conversion. Mais Dieu sait très bien qu'est-ce qui va permettre qu'il soit touché, parce qu'il sait très bien où est-ce que nous risquons d'être aliénés, où est-ce que nous risquons d'avoir des idoles que peut-être nous n'avons même pas vu passer. Parce que je peux aussi être attaché à des choses qui ont l'air hautement spirituelles. Je peux être attaché à un apostolat et dire, mais Seigneur, ça porte tellement de fruits, je dois continuer ça. Et peut-être c'est ça que le Seigneur va m'enlever. Regardez le Padre Pio. Regardez le Padre Pio. Il a été même interdit de célébrer la messe en public, il a été interdit de donner les sacrements de réconciliation, alors qu'il avait une fécondité folle là-dedans. Et on pourrait dire, mais enfin Seigneur, ton intérêt c'est que ça continue, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment permets-tu?
Oui, ça peut être révoltant. Hein.
Mais bien sûr, ça peut être révoltant. Et on peut passer par des moments très difficiles où on ne comprend pas. Mais la sagesse de Dieu qui permet même ces choses mystérieuses et scandaleuses, la sagesse de Dieu va nous entraîner plus loin et pour des fruits qui vont excéder ce qu'on aurait imaginé. Mais au moment où telle ou telle chose nous est enlevée alors qu'on pouvait y être attaché d'une manière pas juste, ce qu'on sent, c'est d'abord la douleur, c'est pas d'abord l'enthousiasme de dire « Oh, c'est super, quelle fécondité !» Non, on gémit, on pleure, on souffre, on agonise éventuellement. Voilà, donc il y a tout ce chemin de purification à vivre.
Et puis c'est aussi un chemin de relecture, puisque finalement, en regardant cet épisode de sa vie, Thérèse de Lisieux, elle mesure le chemin parcouru.
Exactement.
Et elle effectue, comme on dit aujourd'hui, cette relecture.
Exactement, et c'est très rassurant pour nous, parce que comme on l'a dit au départ, elle était assez dépendante affectivement. Elle-même, elle a reconnu que Dieu l'avait protégée plusieurs fois de s'attacher d'une manière excessive à des personnes, même déjà ses camarades de classe. Et elle dit qu'avec un cœur comme le sien, elle se serait laissée couper les ailes. À la limite, c'est pas pour rien qu'elle est proche d'une sainte Marie-Madeleine. Hein.
Oui.
Mais voir que Thérèse, partant de cette fragilité affective de départ, en si peu de temps, fait une trajectoire où l'amour de Dieu, l'amour des autres s'articulent bien les uns aux autres, s'alimentent mutuellement, et où c'est harmonieux et où c'est fructueux, mais qu'est-ce que c'est rassurant pour nous ? C'est encourageant. Ça veut dire, ok, je peux sentir que je suis tellement peu capable, que c'est très très difficile pour moi, que je vis mal ceci, que je vis mal cela, mais est-ce que je fais confiance à Dieu pour m'amener où il a prévu de m'amener ? Et est-ce que je permets à Dieu, au jour le jour, de m'y amener effectivement ? Est-ce que je fais les petits pas que je peux engager moi ? Et est-ce que je lui permets de me conduire d'une manière qui peut-être me surprend, me déstabilise et par moments m'est difficile, mais parce qu'il est jaloux de cet amour et jaloux de cette liberté qu'il veut me donner pour aimer sans aliénation, pour aimer sans réserve, pour aimer sans qu'un amour puisse porter tort à l'autre.
Oui, et alors évidemment, on pourrait encore continuer, mais il faut qu'on parle de cet escalier du renversement de perspective. Alors, peut-être quelques mots quand même pour bien comprendre cet escalier, quelques mots sur l'escalier juste avant, l'escalier de la perfection. C'est celui que nous imaginons devoir grimper.
Ah, mais on n'a pas tout à fait tort. On n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que, oui. Le Christ nous dit « Soyez saints comme votre Père est saint » ou « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Donc il y a bien une perfection qui rentre en ligne de compte. Et quand on a le désir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens, un saint désir qui nous est inspiré par la grâce, même s'il peut se mêler pas mal de nous-mêmes là-dedans, quand on a ce désir-là, eh bien, on a soif de cette sainteté, on a soif de cette perfection, on la rêve aussi un peu. Et en fait, on va faire l'expérience au quotidien qu'on n'y est franchement pas accordé.
Et c'est ça, ce renversement de la perfection ?
Alors, le renversement de la perspective, ça va être que, à la fois, il y a ce que Thérèse appelle le rude escalier de la perfection, et devant lequel elle va se sentir incapable. Elle voit que les saints y sont arrivés et qu'elle, elle n'y arrive pas. Et même à la fin de sa vie, elle va dire, ben voilà, ça m'arrive encore d'être troublée par une parole que j'aurais dite, une bêtise que j'aurais faite. Donc, elle nous rejoint tellement. Elle est grande, c'est une géante de la vie spirituelle, mais c'est la petite Thérèse et c'est une petite sœur pour nous. Elle est vraiment à notre portée, quoi. Et donc, ce rude escalier de la perfection, quand elle parle des saints qui sont comme les aigles dans le ciel et qu'elle, elle est un petit oiseau qui ne sait pas déployer ses ailes, bon, voilà. Oui. Mais le renversement de perspective, c'est que par une sagesse qui est folie pour nous, et qui est quelque part la sagesse de la croix, de l'abaissement du Christ, on n'est pas sauvé parce que le Christ aurait triomphé en bousculant tout ce qui venait le rencontrer, en prouvant sa force. On est sauvé par l'anéantissement du Christ.
Parce qu'il s'est abaissé.
Et quelque chose du mystère pascal du Christ se reproduit dans notre vie, si nous permettons à la grâce de nous faire le chemin. Et donc, on va se découvrir constamment insuffisant, on va se découvrir décevant, on va se découvrir pécheur, et plus on va s'approcher de Dieu, plus on va découvrir à quel point on est pécheur. Et en même temps, tout ce qui en nous paraît si opposé à la sainteté va devenir la matière première à partir de laquelle Dieu va faire notre sainteté.
Oui, c'est pas... ce que vous écrivez, l'amour fait feu de tout bois.
L'amour fait feu de tout bois. Mm. Et ça, Thérèse, elle a très très bien appris. Elle écrit qu'il tire... il fait profit du bien comme du mal qu'il trouve en elle. Donc, si je trouve du mal en moi, bien sûr que j'ai à chercher à éviter toute complicité avec le péché. Bien sûr, je dois faire cet effort-là. Mais le mal que je n'arrive pas à extraire de moi, et de toute façon, je ne pourrais jamais l'extraire sans la grâce, Dieu est capable d'en tirer un avantage. Est-ce que je lui permets ? Est-ce que je suis prêt ? C'est comme Saint Jérôme à la fin de sa vie, qui Jésus venait lui dire « Donne-moi ce que tu ne m'as pas encore donné. » Alors, on voit Saint Jérôme qui va dire à Dieu « Ah bah, je te donne ma prière, je te donne mon ascèse, je te donne mes efforts sur la parole de Dieu, je te donne... » Et chaque fois, Jésus est touché, il remercie Jérôme et tout, mais il dit « Mais là, je viens chercher ce que tu ne m'as pas encore donné.
Ouais. »
Et finalement, Jésus va lui dire « Donne-moi ton péché. » pour que je puisse te le pardonner. Bon. Et est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu pour m'élancer en lui avec ce qu'il y a en moi, le bon et le mauvais, et permettre à Dieu de faire servir même ce qui me paraissait tellement opposé à cette sainteté, cette perfection que lui veut, que lui peut accomplir, et qu'il accomplira comme un alchimiste par des moyens que je n'aurais pas imaginés, à partir de choses qui ne sont pas honorables, il va faire de l'or, à partir de ce qui est le plus pauvre en moi, il va faire ma sainteté. Et ce renversement de perspective, ce chapitre-là, est quelque part un condensé de toute la petite voix de Thérèse. C'est le chapitre qui nous donne comme une synthèse de son enseignement, mais ça nous demande de revoir nos manières de penser, d'enlever nos lunettes qui ne conviennent pas pour recevoir de Dieu le véritable éclairage. Mmh. Et ça, Thérèse, elle le cristallise d'une manière prodigieuse.
Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, vous donnez des idées à débusquer, des mauvaises idées, des confusions.
Exact.
La première, c'est celle entre la perfection et la sainteté. La deuxième, c'est qu'il nous faut revoir notre itinéraire de sanctification, à accepter de rester au pied de l'escalier, malgré la difficulté, même si nous savons que nous pouvons... compter sur la grâce. Et puis, autre erreur, faire de son ressenti le critère de notre amour de Dieu.
Alors ça, c'est très important aussi, parce que souvent, Nous nous figurons que nous aimons Dieu si nous nous sentons enthousiastes pour le servir et pour passer du temps avec lui, etc. Et puis, on va se dire « Oh là là, mais moi j'aime tellement pas Dieu parce que j'ai pas du tout envie de passer du temps là avec lui dans la prière et parce que ça me coûte d'accomplir telle mission dans l'église. » Et voilà. Et on mesure notre amour de Dieu au fait qu'on ressent quelque chose de gratifiant, on ressent un élan, et on croit mesurer notre non-amour de Dieu au fait qu'on ne sent pas cet élan, on ne sent pas cette chaleur dans le cœur.
Ça, c'est un piège à éviter.
Mais carrément. Carrément. Et d'ailleurs, je crois que je cite dans le livre Sainte Gertrude d'Elfta, qui avait demandé... alors, elle avait une vie mystique impressionnante, hein. Elle était intime de Jésus enfant, Jésus adolescent, Jésus adulte. Elle avait des apparitions. Et un jour, elle demande à Jésus, mais je voudrais bien que tu me montres le moment où je t'ai le plus aimé. Sachant qu'elle a vécu vraiment une vie mystique comme beaucoup en rêveraient, quoi. Et Jésus lui a dit, finalement, d'accord. Et il l'a ramenée à un moment où, un temps de prière, elle était sèche comme une bûche. Elle ne ressentait aucun élan du cœur envers son bien-aimé. Et donc, elle est déconfite. Elle dit à Jésus, mais c'est pas possible. Ça peut pas être là que je t'ai le plus aimé, quoi. Et Jésus lui dit, si. Parce que à ce moment-là, toi, tu ne goûtais aucun bénéfice de cet amour que tu avais pour moi. Mais du coup, cet amour, il était très pur. Et moi, j'en jouissais complètement. Mmh. Donc, si nous alignons, ça c'est un grand tort aussi de nos générations, hein. Faire place au ressenti, c'est très important, mais prendre le ressenti comme boussole, prendre le ressenti comme critère, ça nous envoie dans le décor à coup sûr. Mmh. Regardez, Jésus, il a dit « Quelle n'est pas ma hâte de manger cette Pâque avec vous, hein, et d'être baptisé de ce baptême ?» Et en même temps, Jésus, à Gethsémani, il va dire « Mon âme est triste à en mourir.
Oui, » c'est vrai.
Et c'est l'heure du plus grand amour. Et à ce moment-là, ce qui domine, et c'est normal, c'est la tristesse. Et on va dire, à la fine pointe de son âme, il y a toujours la joie de donner sa vie pour le monde et de faire ce qu'il est venu faire, hein, de se livrer et d'aimer jusqu'à l'extrême. Mais la souffrance qu'il traverse à ce moment-là, elle est réelle et sa tristesse est réelle. Est-ce que ça veut dire que Jésus, à ce moment-là, n'aime pas le Père, ne nous aime pas? Mais bien sûr que non. Donc, sachons intégrer la sensibilité en la mettant à la juste place, et ne pas la surinvestir et ne surtout pas la prendre comme critère de véridicité.
Donc voilà, ça c'est effectivement une des attentions à avoir à travers cet escalier. Évidemment, tout votre ouvrage donne tout un chemin de cheminement spirituel. Je vous remercie beaucoup, Claire Le Ridan. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, le Sainte Thérèse et les escaliers, 12 leçons de vie spirituelle aux éditions CLD. Merci beaucoup.
Un grand merci, Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.